La mort.
La mort.
La mort.
La mort.
Les morts.
La mort.
La mort.
La mort.
Printemps mortel, la mort sur les ondes, du 18 avril au 21 juin. Le printemps mortel est organisé par le Centre social La Paz, la Maison de quartier des Ors, Radio Royan Vercors, Thanatosphère et les PEP.
On parle de la mort ce mois-ci, d'existence,
du deuil,
d'émotion,
de l'au-delà,
d'amour immense,
de soins palliatifs,
défunts ou défuntes,
en souffrance,
peur de la mort, tristesse,
rituel, sépulture,
à tous les morts,
violentes ou prématurées,
ramener la mort dans l'espace public.
Chaque semaine, une sélection spéciale de Radio Royan Vercors, 93 FM.
Pour accompagner et vivre le deuil.
Parler avec les morts.
Il y a plein de petites morts.
Comme une ombre parmi les vivants.
La seule certitude qu'on a dans la vie.
Finalement, la mort fait partie de la vie. La mort, on y est tous et toutes confrontés.
Grande communauté invisible, des personnes qui doivent vivre avec.
Des émissions inédites pour parler de choses sérieuses avec légèreté.
On peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être... Il n'y a pas que de la tristesse, en fait.
Cette semaine, dans les rendez-vous mortels, on parle de suicide, du fait de se donner la mort. Le tout avec une interview spéciale d'Isabelle Concessi, qui travaille dans une association de prévention du suicide à Grenoble et qui a accepté de répondre à mes questions.
Dans le cadre de ce printemps mortel organisé par le Centre social La Paz, en partenariat avec Thanatosphère, mais aussi avec Radio Royan, on écoute des rendez-vous mortels, une programmation spéciale sur les ondes 93 FM. Et cette semaine, on avait envie de mettre un coup de projecteur sur une dimension de la mort dont on a peu parlé, qui est la question du choix de mourir, ou autrement appelé le suicide. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Concessi. Bonjour Isa.
Salut Céline.
Je suis très contente de te recevoir à nouveau, ça faisait un petit moment, dans les locaux de Radio Royan. Alors les auditeurs, auditrices te connaissent certainement comme directrice du centre social, mais tu as quitté le centre social au mois de juin 2024. Et aujourd'hui, tu viens avec ta nouvelle casquette. Je vais te laisser te présenter et présenter l'association que tu représentes.
Oui, moi aussi, je suis ravie de te retrouver là, Céline. Donc, c'est partagé. Et donc, depuis septembre 2024, je dirige toujours une structure associative qui s'appelle Recherche et Rencontres et qui gère un centre de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide qui est basé sur Grenoble et environ.
Donc, tu as toujours une casquette de directrice, toujours dans le milieu associatif, mais tu as changé un peu de sujet d'étude.
C'est exactement ça, et j'ai découvert chemin faisant en relisant l'historique de cette association qui a 55 ans, que initialement ce sont des centres sociaux, ces associations Recherche et Rencontres, et il en existait plusieurs en France, c'est toujours le cas, il en existe encore quelques-unes. Mais dans les années, on va dire entre 1950 et 1970, elle s'était développée un peu partout sur le territoire français.
Alors ça veut dire que ça a muté d'un centre social vers ces associations de rencontres et recherches, c'est ça ?
Non, ça veut dire que c'était des centres sociaux, en tous les cas appelés comme ça parce que traitant d'une problématique sociale. Et à un moment, la Haute Autorité à la Santé a estimé que des associations n'étaient pas en compétence pour pouvoir gérer ce type de problème qui ressortait de son point de vue du médical, donc a exigé que ces associations se rapprochent d'institutions, d'établissements publics, notamment hospitaliers ou médico-sociaux. Et donc, à cette époque-là, c'était au début des années 2000, bon nombre d'associations ont disparu, ont été dissoutes ou absorbées. Et certaines ont perduré, dont celle de Grenoble. Et c'est très bien ainsi.
Alors, tu te retrouves à brasser les questions d'isolement et de prévention du suicide un peu dans ton quotidien. Et on va prendre le temps de dérouler un peu tout ça, puisque déjà, on peut s'arrêter sur le terme de cette association, donc l'association Recherche et Rencontres, qui gère ce centre de lutte contre l'isolement et la prévention du suicide. Et en préparant cette interview, tu me disais que c'était dans le bon ordre, finalement, cette appellation.
Oui, complètement. C'est vraiment dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est un parcours, malheureusement, c'est-à-dire que la lutte contre l'isolement vient avant la prévention du suicide. Et non l'inverse, ça ne pourrait être un centre de prévention du suicide et de lutte contre l'isolement, simplement parce qu'on se rend compte que ce sont des phénomènes d'isolement qui vont générer, dans la majeure partie des cas de figure, la volonté de mettre fin à sa vie.
Donc ça veut dire que ce qui sous-tend le travail de l'équipe que tu coordonnes et de ces associations et de ce centre, c'est qu'il y a une souffrance qui donne envie de passer à l'acte et de quitter la vie, et que cette souffrance prend source dans l'isolement.
Tout à fait. En fait, la base de notre travail, c'est de lutter, ou en tous les cas d'accompagner les personnes qui sont en souffrance psychologique. Et souvent, ces souffrances psychologiques sont liées à des phénomènes d'isolement qui se sont installés pour diverses raisons. Ça peut être lié à des discriminations, lié à des traumatismes, lié à la perte d'une personne chère. Enfin, il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des personnes que l'on accueille sont en grande souffrance psychique. Et c'est cette grande souffrance psychique qui va les amener à avoir des idées noires et même au-delà parfois, à imaginer se suicider, mettre un terme à leur vie. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la volonté initiale, si je le dis en raccourci parce que ça serait certainement trop long à développer davantage, mais leur volonté initiale n'est pas de mourir, de toute évidence, mais leur volonté initiale est de mettre un terme à cette souffrance. Et donc, ça donne lieu à deux types de souffrances. Enfin, je veux dire, on parle de deux types de souffrances, à la fois la souffrance physique qui va générer des souffrances psychologiques, mais aussi les souffrances psychologiques qui vont générer des souffrances physiques, peu importe l'ordre dans lequel les souffrances arrivent. En tous les cas, les deux sont intimement liés. Et l'objet pour une personne qui fait une tentative de suicide, qui passe à l'acte, c'est vraiment de mettre un terme à cette souffrance. Donc notre travail, c'est de détricoter tout ça pour essayer d'identifier avec la personne, parce que rien ne pourra se faire sans elle ou à sa place, d'identifier quelles sont les autres possibilités de mettre un terme à cette souffrance. Voilà, de réparer, d'accompagner, d'étayer.
Ça veut dire que peut-être pour ces personnes-là, la question de mourir est une solution, enfin en tout cas une des portes de sortie, et qu'avec elle, vous essayez de voir d'autres portes de sortie.
T'as tout compris en fait. C'est même pas que c'est une des portes de sortie, c'est la seule qu'ils entrevoient. Il n'y a qu'une solution pour eux, c'est celle-ci. Et donc, le travail que l'on a à mener, c'est d'identifier avec eux s'il n'y en a pas d'autres. Et bien évidemment, très très souvent, il y en a d'autres.
Alors ça m'amène, j'ai plein de questions qui se bousculent là dans ma tête, mais ça veut dire qu'une personne qui vient et qui sollicite votre association, qui vient dans ce centre, on peut dire que déjà elle fait une démarche qui laisse entrevoir le fait qu'elle cherche d'autres portes de sortie, parce que sinon elle aurait peut-être déjà mis fin à ses jours ou elle serait déjà passée à l'acte, non ?
Oui, et puis après c'est aussi les petites relations de confiance qu'elles arrivent encore à construire avec un entourage qui s'est quand même sacrément dépeuplé. Et parfois, on va leur dire, quelqu'un va leur dire dans cet entourage dépeuplé, peut-être que tu pourrais aller rencontrer les gens de cette association et peut-être que ça pourrait t'apporter quelque chose. Mais là où tu as raison, c'est que lorsque ces personnes viennent, de toute façon, il y a toujours un espoir. Voilà. Je disais aussi que on n'est pas dans le cas de figure, rarement en tous les cas, dans le cas de figure de quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Et du coup, qui, de fait, n'a pas d'autre porte de sortie. Voilà. Donc, pour moi, voilà, il y a différents types de suicides. Et il y a différentes façons de vouloir mettre fin à sa vie et différentes raisons de vouloir le faire. Voilà. Donc, je pense que la mort assistée dans un cas de figure de quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, ça touche à la possibilité de pouvoir mourir dignement.
Mon ami est parti. Il est parti pour toujours. Mais moi, je suis en vie. Fais battre ton tambour, fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur, que demain je danse encore, que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour.
Si on revient sur cette question de l'isolement, est-ce que donc vous constatez que la souffrance psychique est telle que la personne s'isole ? Parce qu'on peut être aussi en grande souffrance psychique et garder quand même des liens sociaux, non ?
C'est malheureusement un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on va se trouver en situation d'isolement, qui va être provoquée par différentes choses... Voilà, c'est soit parce qu'on ne rentre pas dans une forme de norme sociale, soit c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible dans sa vie. Mais voilà, il y a plusieurs phénomènes qui vont faire que de l'isolement va se générer autour d'une personne. Et en fait, cet isolement vécu va s'ancrer. Et du coup, la personne va être dans l'incapacité de sortir de cet isolement seule. Et finalement, c'est le seul espace, cet isolement, dans lequel elle va finir par se trouver en sécurité. Mais pour autant, c'est aussi l'espace qui la broie et qui la fait mourir à petit feu, parce que nous sommes des animaux sociaux, des êtres sociaux, et qu'on ne peut pas vivre seul ou difficilement, à quelques exceptions près certainement. Mais donc, on a besoin de l'autre, de cette altérité. Et lorsque ça n'existe plus, petit à petit, la personne devient dans l'incapacité de générer du lien social.
Est-ce que tu as l'impression que c'est une question plus contemporaine, liée à nos modes de vie plus individualistes, la manière dont la société se gère aujourd'hui, et qu'il y a peut-être moins de... Je sais pas, de lieu de rencontre qu'à une autre époque, je sais pas.
Oui. Je partage tout ce que tu viens de dire. Et oui, pour avoir lu aussi des livres rédigés par les cofondatrices, c'était deux femmes, les cofondatrices de ces associations, c'est exactement ce qu'elles avaient identifié. C'est très expérimental, hein, ce qu'elles ont mis en œuvre. Personne ne s'était soucié, en fait, du lien entre suicide et lien social avant qu'elles ne travaillent sur ce sujet. Et ça s'appelle Recherche et Rencontre, parce qu'elles ont fait tout ce travail avec des chercheurs en sciences humaines, en sociologie et sur un volet éducatif. Donc c'est encore une émanation de l'éducation populaire, hein, ces associations. Et donc, elles précisent bien dans leurs écrits que, en fait, c'est l'évolution de notre société. Et il me semble, si je l'ai lu correctement, qu'elles mettent aussi le doigt sur son urbanisation. Le fait que les campagnes se soient vidées, c'est dans ces périodes-là, hein, c'est donc au moment de l'industrialisation et où les campagnes se sont vidées, les villes se sont remplies et finalement le fait d'être entouré de énormément de monde a généré beaucoup d'isolement. Et elles mettent aussi en parallèle le fait que commençait à se développer une société éminemment compétitive où en fait il faut tout le temps faire ses preuves, se comparer à, enfin cette notion de compétition a été aussi très prégnante dans ces phénomènes d'isolement qu'elles ont identifiés. Et donc du coup qu'on retrouve à la fois à la campagne, puisque les gens se sont retrouvés isolés, y compris géographiquement, à la campagne, et se sont aussi retrouvés isolés à la ville parce qu'entourés de tout un tas de personnes qu'elles ne connaissaient pas et avec la nécessité de faire ses preuves.
Donc d'un point de vue sociologique ou même philosophique, en fait, notre modernité, empreinte de libéralisme et de compétitivité, hein, comme tu le dis, génère de l'isolement et du coup de la souffrance.
Oh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, notre société génère beaucoup, beaucoup de souffrance, oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2025 est l'année de la santé mentale. Et j'ai tendance à dire partout où je vais que, bien évidemment, on va tous très, très bien. Toi, moi, personne n'a de problème. Encore moins de problèmes de santé mentale. Ça reste très tabou. Mais pour autant, je crois que on a tous des fragilités qui sont liées à la société dans laquelle on vit et qui fait que la moindre petite étincelle peut très vite nous précipiter dans des formes de dépression qui nécessitent vraiment qu'on se questionne sur notre santé mentale et qu'on ne laisse pas ça de côté en faisant comme si tout allait bien.
D'aucuns diraient que c'est être en bonne santé dans cette société qui serait preuve de folie.
Voilà, c'est exactement ça, la folie. Il faudrait qu'on réussisse à définir aussi la folie. Je vais te donner une anecdote. On est installé à Grenoble, centre-ville, et dans un appartement qu'on occupe dans son entièreté au 7e étage. C'est un lieu juste incroyable et ça fait partie en fait de ce que l'on veut apporter aux personnes que l'on accueille. Et donc, qui dit 7 étages dit ascenseur. Et lorsque les personnes prennent l'ascenseur et qu'elles voient que quelqu'un appuie sur le 7e, souvent, elles sortent de l'ascenseur parce qu'elles ne veulent pas prendre l'ascenseur avec des fous. Voilà, juste pour dire ça. Du coup, ça me questionne toujours sur qu'est-ce que la folie. Dans l'esprit, je pense que ça génère une forme de dangerosité, ce qui est totalement faux. Puis je ne saurais pas en plus définir la folie. Puis je me sens très folle, moi, personnellement. In a way, come and take my pain away. Fais battre ton tambour.
Moi, je trouve que c'est intéressant d'être en train de parler de ça avec toi aujourd'hui parce qu'on est dans une période où, sur les ondes d'un autre grand média, un animateur de matinale a fait son coming out de personnes bipolaires, donc a mis sur le devant de la scène cette phrase « Je suis un malade mental », a parlé de la bipolarité, a parlé de sa souffrance, a parlé de ses envies de mourir. Moi, je me suis un peu passionnée par ce livre-là, « Intérieur nuit » que Nicolas Demorand a écrit, et notamment une psychiatre qui disait « Parce que des personnalités publiques vont faire ce type de témoignage, mais c'est la même question dans les questions LGBT, par exemple, ou de transphobie, ou parce que des personnes populaires, écoutées à heure de grande antenne, vont faire ces témoignages-là, alors il va y avoir des répercussions sur monsieur et madame tout le monde qui vont se sentir autorisés à en parler, sortir du déni et aller consulter. Encore faudrait-il que la demande et l'offre en face, et vous êtes un des acteurs de cette offre-là, quoi.
On est un des acteurs de cette offre-là, malheureusement. Enfin, alors je reprends dans le sens où tu le présentes. Oui, c'est sûr que des personnes qui sont très écoutées vont faire que ça va libérer plein de choses chez des personnes qui ont honte de souffrir de bipolarité, de schizophrénie, de tout un tas de choses que oulala, 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 mais oui, ce sont des fous. Et c'est des gens que l'on perçoit, enfin en tous les cas, que le commun des mortels peut percevoir comme quelqu'un de tout à fait inadapté pour vivre dans notre société, ce qui est totalement faux. Donc on reçoit dans notre association des personnes qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, enfin de tout un tas de maladies, qu'elles soient mentales ou autres. Et donc là où je voulais en venir, c'est que tu fais un parallèle entre la demande et l'offre, c'est-à-dire entre toutes ces personnes qui auraient besoin d'avoir un accompagnement qui va leur permettre d'aller mieux et de mieux vivre, et cette offre qui aujourd'hui a été complètement saccagée, c'est-à-dire que le service public, le service hospitalier psychiatrique en France est dans une situation qui est catastrophique. Alors on parle du service hospitalier au sens large, mais autant vous dire que sur le volet psychiatrique, mais c'est sans commune mesure, quoi. Des gens qui attendent dans des couloirs pendant des semaines et des semaines aux urgences psychiatriques, si bien qu'elles finissent par en être dénutries. Donc c'est des trucs mais juste incroyables auxquels on est confronté et dont on ne parle pas, ça va avec le reste. C'est-à-dire que la psychiatrie en France, on n'en parle pas. Voilà, on met nos fous dans des hôpitaux psychiatriques. On ne veut pas savoir où sont ces hôpitaux psychiatriques ni comment ça fonctionne. Et c'est très bien comme ça. Mais donc, c'est important d'en parler. C'est important de mettre la lumière là-dessus. Et Dieu merci, des gens commencent à en parler et à être écoutés.
C'est paradoxal. Alors, on va mettre des guillemets à fous, parce que les fous, comme tu disais, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un peu tout le monde. La société génère de plus en plus de souffrances, de discriminations, de choses qui font que les gens souffrent, se sentent isolés, et parallèlement à ça, ne permettent pas qu'une offre vienne soutenir, vienne compenser cette souffrance et venir en aide aux personnes qui en souffrent, quoi. C'est quand même un gros paradoxe.
Oui, c'est un gros paradoxe. Alors, je pense que c'est pas le seul, hein, dans notre société. Hein, je veux dire, en termes de nécessité et de proposition que l'on peut avoir en face, on se rend compte que waouh, enfin, il y a un sérieux problème. Et donc, on retrouve ce problème dans le monde de la psychiatrie. Ceci dit, lorsqu'on commence à toucher du doigt ce monde de la psychiatrie, on se rend compte que c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, qui s'intéresse énormément aux sujets de société. Je dis ça parce que pendant très longtemps, encore aujourd'hui, mais on hospitalisait les gens de force. C'est-à-dire qu'on les hospitalisait sous contrainte, et ça, on est vraiment en train d'en revenir, et le monde de la psychiatrie évolue beaucoup sur ces sujets-là aussi, identifiant que finalement la contrainte génère de l'isolement, est tout à fait contre-productive, et que donc il y a vraiment un parcours à travailler avec la personne concernée pour essayer de lui apporter la meilleure réponse possible. Et du coup, se développe énormément, d'ailleurs, sur le même volet, les notions de pair aidance. Qui se professionnalise, c'est-à-dire que qui mieux qu'un bipolaire ou un schizophrène est capable d'accompagner un bipolaire ou un schizophrène? On le retrouve dans tout plein d'autres, sur tout plein d'autres sujets.
Je sens monter la colère, l'envie de crier, je veux tordre le cou à ce mal.
Et du coup, concrètement, si on va un peu sur le concret de ce travail-là, donc votre centre d'accueil pour des personnes qui se sentent isolées, qui sont en souffrance psychique et qui ont des idées noires au point d'avoir envie de passer à l'acte et de mourir, se trouve donc dans un appartement au 7e étage à Grenoble, au centre-ville, en entendre parler par d'autres personnes, des proches. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qui compose l'équipe? Qui accueille ces personnes? Comment ça se passe?
Alors, ils en entendent parler par des proches, ils en entendent parler aussi par des travailleurs sociaux, ils en entendent parler aussi par des professionnels du médical. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où on vient souvent sur prescription, entre guillemets, hein, c'est pas la feuille de prescription, mais voilà, c'est comme ça. Et oui, tout à fait, sur conseil. Et donc, dans ce lieu, en fait, on va trouver trois types de professionnels, puisque la proposition qu'on fait s'axe sur trois pôles. Un premier pôle qui est un pôle d'accueil et d'écoute, où on a trois professionnels accueillants, écoutant, donc qui sont formés à l'écoute active et qui proposent un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que vient qui veut, quand il veut, comme il veut, inconditionnel et anonyme si la personne le souhaite. Et lors de ce premier temps d'accueil, il va y avoir une forme de double évaluation, c'est-à-dire que l'accueillant écoutant va être en mesure d'évaluer la situation de la personne que l'on reçoit. Et la personne qui vient nous rendre visite va être en mesure d'évaluer si le dispositif peut lui convenir, s'il a envie ou elle a envie de rentrer dans ce dispositif. Après ce premier contact, il est proposé à la personne qui nous a rendu visite de prendre le temps de réfléchir et de revenir vers nous une semaine ou 15 jours après. Et si la personne revient vers nous à ce moment-là, elle rentre sur le second pôle. Le second pôle est constitué de psychologues, cliniciens. Et en fait, un psychologue clinicien va devenir le référent de la personne et va lui proposer des rendez-vous réguliers, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les 2 mois. Ça va dépendre du besoin de la personne et sans durée prédéterminée. C'est là notre force. C'est parce qu'on est une structure associative qu'on peut faire ça. Donc quand je te dis ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent depuis 30 ans, 35 ans. Il y a des personnes qui viennent depuis 10 ans, il y a des personnes qui viennent depuis 15 jours, il y a des personnes qui viennent depuis 6 mois, il y a des personnes qui viennent, qui sont revenues 2 ans, puis ont disparu 3, puis sont revenues.
Mais est-ce que là, ce que tu décris, ça me fait penser un peu à l'accueil qu'on peut trouver dans des CMP, des centres médico-psychologiques, c'est-à-dire un premier entretien avec des infirmières psychiatriques qui évaluent tout ça, qui font passer, qui font remonter au psychiatre et à l'équipe de psychologues, et après on donne des rendez-vous et des suivis thérapeutiques. Ça peut ressembler un peu à ça.
Il peut y avoir de ça, si ce n'est que on a des professionnels, des professions paramédicales avec les psychologues, mais on n'a pas de profession de professionnels du sanitaire chez nous. Donc on ne prescrit pas, voilà, on ne prescrit pas de médicaments ni quoi que ce soit d'autre. Mais c'est effectivement une forme d'accompagnement. Et donc dans ce travail d'étayage et de soutien psychologique va arriver le troisième pôle, c'est-à-dire que lorsque la personne se sent prête et que son psychologue référent estime aussi que la personne est prête, elle va participer à des ateliers collectifs. Donc on a des ateliers qui sont proposés, thématiques, c'est des ateliers d'expression, donc ça peut être de l'expression corporelle, de l'expression écrite, de l'expression artistique, du dessin, enfin voilà, différents thèmes qui sont proposés sur une forme expression. Et ce sont des petits groupes de maximum 8 personnes. Et donc, en allant vers ce collectif, la personne va pouvoir commencer à renouer du lien social avec d'autres, se confronter à d'autres. C'est très compliqué, cette confrontation-là qui devient nouvelle. Et elle a fait un gros travail sur elle, donc elle a retrouvé certainement en estime d'elle-même. Et donc là, maintenant, c'est de réussir à accepter de se retrouver à nouveau en lien avec d'autres, avec tout ce qu'il représente de différent d'elle.
Qu'est-ce qui est très compliqué pour cette personne-là ? C'est l'estime qu'elle a d'elle-même et qu'elle ne veut pas confronter à d'autres ?
Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, l'isolement génère de l'isolement. Et finalement, ça devient le seul espace sécurisant, cet isolement. Et donc, dès qu'on propose à la personne de se retrouver dans un espace où il va y avoir d'autres personnes, elle vit une situation très, très, très difficile, voire agressive pour elle. Parce que cet isolement est oui, sécurisant, voilà. Et l'autre va venir mettre à mal cette sécurité. Donc, dans des petits groupes comme ça, ça permet de le faire doucement. Et le principe, c'est que la personne va pouvoir participer à un ou deux groupes. Et la finalité, évidemment, c'est qu'elle puisse, dans un quatrième temps, aller vers des groupes qui sont à l'extérieur de la structure. Voilà.
Donc ça, c'est des groupes que vous orientez ou vous conseillez la personne ou vous l'accompagnez vers l'extérieur ?
En tous les cas, on développe, nous, des activités dites hors les murs, justement pour pouvoir commencer à inscrire le petit groupe dans un plus grand groupe. Exemple, si on a un atelier de théâtre d'impro, on va générer un hors les murs avec une troupe de théâtre d'impro qui existe sur Grenoble ou à l'extérieur de Grenoble. Il va y avoir du lien qui va se faire entre ces deux groupes. Ils vont aller à des spectacles à l'extérieur de la structure. Et voilà, tout ce hors les murs va permettre de remettre un pied dans sa vie et à l'extérieur de cet appartement qui est très, très, très sécurisant. L'appartement fait vraiment partie de la proposition qui est faite. Les gens y viennent comme un peu chez eux. Dans l'endroit qui va les rassurer, où il fait chaud, où ils peuvent échanger avec quelqu'un, boire quelque chose, manger quelque chose. On a vraiment des gens, pour certains, qui sont en très très grande précarité, parce que l'isolement aussi génère de la précarité.
Et la précarité génère de l'isolement.
Voilà, c'est ça, et la précarité génère de l'isolement.
J'essaie de faire dans ma tête le lien avec des personnes qui pourraient souffrir avoir envie de mourir ou se sentir vraiment mal dans leur corps, dans leur vie, tout ça, mais pour autant ne pas être forcément précaire ou ne pas forcément être complètement isolé. Enfin, tu vois, est-ce que ces personnes-là pourraient être aussi accueillies dans l'association ?
Oui. Oui. En fait, quand je te dis que l'accueil est inconditionnel, on ne demande absolument rien aux personnes. On ne sait rien de leur vie, on ne sait pas quelles sont leurs ressources, on ne sait absolument rien. On a même des personnes qui viennent sous de fausses identités, qui nous donnent de faux numéros de téléphone, peu importe en fait. Peu importe. Si elles viennent, c'est qu'il y a un besoin. Et donc, on va répondre à ce besoin. Et ensuite, elles vont nous raconter leur vie ou pas. Ça leur appartient. Mais effectivement, on va avoir des gens qui sont en précarité économique et d'autres pas du tout. On va avoir des gens qui ont un tissu familial très dense et d'autres pas du tout. Enfin, on va vraiment avoir tout type de profil.
Et moi, j'aurais envie d'aller vers cette question, puisqu'on prend le temps aujourd'hui de déplier un peu cette question du suicide, de l'envie de mourir. Est-ce que, d'un point de vue, oui, presque philosophique, est-ce qu'il faut sauver les gens d'eux-mêmes et de leur potentiel passage à l'acte? Est-ce que il faut empêcher que les gens mettent fin à leur jour dans la société dans laquelle on est aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il faut l'empêcher. Il me semble qu'en tous les cas, il faut suffisamment bien accompagner les personnes, quelles qu'elles soient, pour que cette envie de mourir soit une vraie certitude. C'est-à-dire qu'il me semble que notre travail n'est pas d'empêcher quoi que ce soit, mais d'accompagner la personne à identifier si sa volonté est celle-là ou si sa volonté est autre. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, nous, les personnes que l'on accueille dans notre association, ce sont des personnes qui souffrent. Et lorsqu'elles ont des idées noires ou des comportements suicidaires, c'est qu'elles veulent mettre un terme à cette souffrance qui est trop difficile et elles ne voient pas d'autre solution que de mourir. Donc elles ne veulent pas mourir. Elles veulent mettre un terme à cette souffrance. Voilà. Donc après, pour moi, on doit prévenir d'une mort précoce lorsque c'est pas la vraie volonté de la personne. Si la vraie volonté de la personne, pour diverses raisons qui lui appartiennent, est de mourir et que c'est tout à fait conscientisé et qu'elle n'a pas de doute sur ce sujet, je ne vois pas ce que l'on pourrait empêcher. Mmh. Et d'ailleurs, je ne vois pas de quel droit on pourrait l'empêcher.
Oui, c'est ça que j'interroge un peu, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, au bout de cet accompagnement, un vrai choix, un choix éclairé presque, qui n'est pas dépendant de la souffrance, mais plutôt de la réelle, du réel pouvoir sur son existence, de dire moi là, je démissionne, j'arrête, je veux plus.
En tous les cas, c'est pas antagoniste. On a un jeune homme qui fait des études de journalisme, qui est venu nous rencontrer il y a quelques semaines et qui venait nous demander notre avis sur la mort assistée. Et sur le suicide assisté, puisque c'est aussi appelé comme ça. Et donc notre réponse, elle est que c'est pas parce qu'on est un centre de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide que on n'a pas une réflexion sur le suicide assisté et que on estime que les gens ne doivent pas mourir et ne doivent pas avoir la volonté de mourir.
C'est plus complexe que ça.
C'est bien, bien plus complexe que ça. Et en petit préambule, on a aussi un petit peu échangé sur le sujet des maladies incurables. Enfin, voilà, pour moi, le suicide assisté rejoint la question de pouvoir mourir dignement. Et donc là, pour le coup, je pense qu'on doit permettre aux gens, ça doit être un droit de pouvoir mourir dignement. Donc on doit permettre aux gens de pouvoir se suicider dans de bonnes conditions lorsque de toute façon leur mort est inéluctable et que souvent leur mort, si on laisse la vie se terminer comme elle le doit, va être atroce en termes de souffrance. Donc voilà, donc pour le coup c'est un débat hyper philosophique, mais c'est pas une contradiction par rapport à ce que l'on fait dans notre association.
Ah oui, parce que peut-être qu'on pourrait se dire que ça emprunte aussi de la religion. J'ai l'impression qu'il y a un tabou, une chape de plomb aussi sur cette question de droit de mourir, de suicide, et que ça se passe toujours de manière assez tragique, et pour la personne et pour l'entourage, parce que c'est pas pensé, parce que c'est pas parlé, et que votre association, elle vient un peu
Tout à fait.
Se mettre là-dedans.
Tout à fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est... Quand tu travailles avec une personne qui a des pensées suicidaires, en fait, tu évalues le degré d'urgence dans laquelle la personne se situe. Et Et le degré d'urgence ultime, c'est quand la personne a élaboré un plan qui est waouh. Enfin, je veux dire, le truc, il est carré, et surtout l'entourage l'ignore. Ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé récemment ici, où on a cherché pendant très longtemps une jeune femme du côté de Comblaval qui a priori avait un plan qui était plus que très bien élaboré, parce qu'en plus son entourage, de ce que j'ai pu comprendre en tous les cas, disait que non, c'était absolument impossible. Donc voilà, quand on en est, et on invite les personnes quand elles ont des idées suicidaires, à essayer de détricoter tout ça et à les faire beaucoup s'exprimer sur où ils en sont de leur plan. Et si le plan est très abouti, oui, il y a extrême urgence. Mais par contre, si le plan est pas du tout abouti, ça veut dire que c'est vraiment un appel au secours et qu'il faut il faut faire un travail d'étayage et puis essayer de comprendre avec la personne qu'est-ce qui va générer en fait ces crises suicidaires. Et souvent les gens arrivent parfaitement à mettre le doigt dessus. Donc ça génère en fait des plans, je sais pas comment te dire, mais c'est un peu comme ta feuille A4 qui serait accrochée sur le frigo pour ces personnes, en tous les cas. Et elles savent que quand il y a une émotion qui arrive chez elles ou quand il se passe un phénomène quel qu'il soit, ça les met en alerte tout de suite parce qu'elles savent que ça va générer quelque chose d'autre derrière. Et donc, on arrive à remonter le fil comme ça et à accompagner le mieux possible les personnes pour qu'elles puissent gérer ces situations de crise. Et elles y arrivent très, très bien. Voire, elles arrivent à en sortir. Come and take come and take my
pain. Oui, donc quand tu dis détricoter, c'est vraiment refaire ce fil-là. Et j'imagine que ça doit demander beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, d'expertise des personnes qui écoutent.
Oui et non. Ça nécessite pas d'expertise. Ça, je l'apprends en cheminant auprès de mes collègues. Ça nécessite une écoute. Comment te dire? Quels sont les bons mots? Il parle beaucoup d'éthique clinique, tout ça. Ça nécessite de ne jamais porter de jugement, de ne jamais rien savoir, de ne surtout rien savoir, de rien savoir de la personne. Il y a qu'elle qui sait. De jamais remettre en question ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit ne peut être que vrai. Et en fait, de la prendre là où elle est et comme elle est. Et de ne jamais avoir d'idée préconçu ou de présupposer, de ne jamais faire référence à des choses vécues par ailleurs avec d'autres, parce que chacun est différent. Et c'est ça, je crois, la particularité du travail qu'ils font. C'est-à-dire que non, ils n'ont pas d'expertise, si ce n'est d'être en capacité de pouvoir tout entendre et tout écouter.
L'accueil inconditionnel pour de vrai.
Ouais.
La vraie écoute.
Voilà. C'est ça. Ouais. Et quel que soit ce qu'on va leur dire, qu'ils soient en accord avec ou pas en accord avec, je veux dire, il va y avoir des sujets sur lesquels ils peuvent ne pas être en accord, mais c'est pas le sujet. C'est pas pour ça qu'on est là. La personne, elle va se livrer dans son authenticité, dans son entièreté, et c'est ça qu'il va falloir prendre. Et c'est ça qu'il va falloir travailler avec elle, ce qu'elle est, pour qu'elle regagne en estime d'elle-même. Ouais. Voilà.
Ça doit être passionnant. D'accompagner tout ça. Je m'aventure sur une question peut-être un peu plus personnelle. Isabelle, après 13 ans passés au centre social La Paz, à diriger du service aux habitants, de l'accueil de loisirs, tout un tas de fourmillements comme ça, ici sur notre territoire rural, pourquoi tu t'es dirigée vers cette association-là? Qu'est-ce qui t'a poussée?
Je ne sais pas. Il faudrait le détricoter aussi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je savais quels étaient le cadre dans lequel j'avais envie de m'inscrire. Quelque chose de plus simple en termes, comment dire, charge mentale, compétences à développer. Enfin, je savais que j'avais un certain bagage et j'avais envie de quelque chose de plus léger, pas dans le contenu, dans la forme, parce que effectivement dans le contenu je suis pas allée vers quelque chose de plus léger. Après, je me dis aussi qu'il n'y a jamais de hasard dans nos parcours de vie. Donc, si ça m'a amené là, c'est parce que ça touche quelque chose en moi, forcément, dans mon parcours. Et je l'accepte. Voilà, même si je ne l'avais pas identifié, je me suis dit, lorsque j'ai candidaté sur ce poste, en toute honnêteté et en toute humilité, je me suis dit, je pense qu'ils me prendront. Parce que je pensais que ça cochait les cases. Et puis après, j'avais cette envie de me nourrir. Moi, j'arrive dans un secteur d'activité que j'ignorais totalement, ou en tous les cas que j'appréhendais, mais vraiment à la marge. Et je découvre un monde et ça continue à avoir du sens. Et je pense que c'est ça, en fait, l'essentiel dans mon parcours professionnel, c'est que quoi que je puisse faire, j'ai très envie de mettre à disposition ce qui est utile chez moi. Donc ça marche. Et puis, pour moi, j'ai très envie de faire quelque chose qui a du sens. Et ça marche.
Ici, là, dans cette association, tu y trouves du sens?
Oui, j'y trouve du sens, ouais. Oui, j'y trouve du sens parce que voilà, je pense que la question de l'isolement doit se poser, de ce qui génère de l'isolement aussi. La notion de l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit, est vachement importante aussi pour moi. Et je pense qu'il y a une place pour tout le monde ici-bas, des cabossés, des moins cabossés, et puis qu'on peut essayer de réparer quelques cabosses, c'est pas plus mal.
En tout cas, ça me fait vraiment penser à un îlot de résistance, peut-être aux valeurs plus, effectivement, on disait libérales ou destructrices qui sont véhiculées aujourd'hui dans notre société. Et comme si là, à cette place-là que t'as toi, et ce que fait cette association, ça résiste et ça répare.
Vrai, ça résiste et ça répare. Et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est essentiel, je pense, que des structures comme celle-ci restent des structures associatives. Parce que toutes celles qui ont été phagocytées par des établissements publics proposent aujourd'hui des choses qui ne sont plus du tout à l'image de ce que l'on développe, nous, encore sur Grenoble. Et on sait à quel point le service public est malmené. Donc voilà, on a cette chance d'exister encore comme l'on est, de ne pas avoir à faire rentrer les gens dans des cases, de ne pas avoir à, je pourrais te dire tout un tas de trucs de ce que je pense sur mon parcours psy, hein. Je veux dire, toi, tes 12 séances, puis tout va bien, quoi. Allez, en avant, Guingamp. Ou ailleurs, mais c'est essentiel, en fait. De ça fait partie de ces idées préconçues qu'on n'a pas. On ne peut pas dire que au bout de tant de séances d'accompagnement psychologique, la personne va aller bien. On n'en sait strictement rien. On a des personnes qui vont aller bien au bout de 3000 séances d'accompagnement psychologique, et puis on a des personnes qui vont se réparer beaucoup plus vite et qui au bout de 10, 15, 20 séances d'accompagnement vont aller mieux. Mais qui le sait, ça? Voilà. Donc le fait que ce soit une structure associative, ça permet de préserver ça, de préserver le fait de ne pas avoir de public dit cible. Et le fait aussi de ne pas avoir de dispositif pré-mâché, voilà, qui soit standardisé.
Dans notre rapport au temps, et c'est en ça que c'est de la résistance.
L'éloge de la lenteur.
Ouais, c'est ça.
Réellement.
Un autre rapport au temps, un autre rapport à la rentabilité aussi. Quand on parle de santé mentale et qu'on met en face la question de la rentabilité, on se tire déjà une balle dans le pied, quoi.
Alors non, figure-toi, regarde, on a un exemple, parce qu'on sort nos exemples pour dans nos luttes, comme tu le dis. Mais alors, en termes de rentabilité, on est hyper rentable, parce que une personne qui va être accompagnée par le CLIPS, grosso modo, on peut dire que elle coûte 1500 euros par an à la société. Une personne, la même, qui ne peut pas venir au CLIPS et donc qui fait des allers-retours incessants à l'hôpital psychiatrique ou auprès des professionnels médicaux de la psychiatrie, va coûter entre 6 et 8 000 euros par an à la société. C'est QFD, quoi. Voilà.
On arrive à évaluer ce que coûte une personne en souffrance.
Ah ben carrément, mais vive le CLIPS, mais on est obligé, ça, tu vois. Alors ça on ne le fait jamais à l'intérieur, de toute évidence, mais ça, c'est plutôt mon job, tu vois, dans la relation partenariale. Moi, mes petits chiffres, j'y tiens. Et j'en ai un paquet pour leur dire, ben, fais regarder.
C'est la notion de la prévention, en fait. À partir du moment où on fait de la prévention, eh ben, on gagne en rentabilité. Parce que à partir du moment où on bascule de la prévention vers le curatif, c'est terminé. Donc tous les établissements qui effectivement font de la prévention, comme le nôtre, comme les établissements de santé sexuelle et tout cela, forcément, si nos gouvernements pouvaient s'en rendre compte, nos élus pouvaient s'en rendre compte, ils sont éminemment plus intéressants économiquement que des établissements qui viennent guérir après, ou en tous les cas qui viennent faire du curatif une fois que le mal est fait.
Et bah, avant qu'on s'arrête, j'aurais envie de te demander une chose que tu as découverte sur cette question du suicide, pour boucler un peu la boucle là, de cet échange, depuis que tu y travailles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment appris? Alors tu m'as dit que tu as appris plein de choses, hein, vu que tu découvres un nouveau monde professionnel. Quelque chose où tu t'es vraiment fait surprendre?
J'ai appris plein de choses. Je suis surprise chaque jour. Donc, je pense que ce que ça m'a surtout le plus appris ou invité à faire, c'est de ne pas avoir d'avis, de ne pas porter de jugement, surtout d'imaginer que c'est jamais aussi simple que ce que l'on veut bien croire. Voilà, et qu'il y a vraiment des situations dans lesquelles... les gens sont complètement enfermés et que ça n'est pas de leur ressort, malgré ce que l'on peut penser souvent. On estime toujours que c'est de leur faute, que c'est de notre faute. Quand on a un problème, quel qu'il soit, c'est de notre faute. Celui qui cherche du boulot, c'est de sa faute. C'est parce qu'il est trop con et il n'arrive pas. Enfin, voilà. Ou c'est un feignant. Voilà, il ne cherche pas, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas de boulot. Et quelqu'un qui est en souffrance psychique, enfin... quand on observe son parcours de vie, enfin en tous les cas, ce qu'il veut bien nous en livrer, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, et surtout se dire que ce qu'est en train de nous raconter cette personne-là, ça peut être nous demain. Ou c'était peut-être nous hier. Donc voilà, avoir cette humilité-là. C'est ça que ça m'apprend, ouais.
Peut-être qu'on donne le numéro ou le contact du CLIPS, parce que peut-être des personnes dans le Royaume Vercors pourraient être amenées à y venir.
Ouais, tout à fait. Tu as raison. Donc on développe notre proposition sur Grenoble et dans les communes alentours, et on intervient sur Sud-Isère. Et donc on va trouver le CLIPS. Enfin, on peut le contacter en tous les cas au 04 76 87 90 45. Voilà, on peut même échanger dans un premier temps par téléphone, et puis on peut aussi être lieu ressource et renvoyer vers des espaces qui existent par ailleurs.
Merci, grand merci Isabelle d'être venue parler de cette activité et puis parler plus largement de la question de la souffrance psychique et des idées suicidaires et du suicide aujourd'hui.
Merci à toi Céline de m'avoir à nouveau invitée ici, et ce fut un réel plaisir.
Et pour continuer ces rendez-vous mortels, nous vous proposons d'écouter Le choix de mourir, le film réalisé par Vox Populi pour Le printemps mortel en mai 2025.
Ouais, c'est une question très difficile parce que ça peut déclencher des abus.
Un bon cas d'abus est un cas dont on ne connaît pas l'existence.
C'est peut-être un peu naïf, mais J'arrive pas à me dire qu'avec un sujet aussi important que la mort, on puisse... Enfin voilà, il puisse y avoir des abus en fait. Je me dis que si, en plus surtout si c'est passé dans un cadre légal et que c'est une loi, etc., ce sera très surveillé quoi.
Tu dis, genre, on veut se débarrasser de Pépé ou de Mémé, bloup. Mais globalement, si la personne est saine de corps et d'esprit et qu'il peut choisir, je pense que c'est bien quoi. Après, où est la limite? Je peux même pas me poser la question parce que je sais que la limite c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la nature humaine, trouver la limite. Donc ça me laisse.
La fin de vie, c'est sans doute un des sujets, là on a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte, on a le personnel, le subjectif, le religieux, enfin il y a tout qui rentre en ligne de compte par rapport à un choix qui est le... comment on décide de finalement de quitter un monde dans lequel on est arrivé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et je pense que je pense que c'est un sujet sur lequel peut-être on peut pas. Est-ce que c'est avoir une réponse définitive sur le sujet?
Là aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que le jour où ça ira pas, je demanderai à mourir. Je n'en sais rien. Pour l'instant, non. Je vous dirais non. Mais on ne sait pas ce que la vie... C'est ce que je leur dis à mes enfants. Le jour peut-être où ils seront parents et que je serai grand-mère, eh ben, j'accepterai peut-être le tuyau dans la gorge et le respirateur parce que je voudrais voir grandir mes petits-enfants.
C'est une question qui, pour moi, je n'ai pas encore de réponse. Je me la pose, mais je me dis que c'est les aléas de la vie qui me pousseront à choisir comment mourir, si je dois choisir ou... si ça devient comme ça, bon. Mais je n'ai pas encore la réponse, mais je me la pose souvent, surtout depuis que je sais que des amis ont fait le pas, et grand bien pour eux. Mais moi, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais c'est une question qui est là. Mais je n'ai pas de réponse pour moi, je ne sais pas.
Le choix de mourir, ça peut... ça a plusieurs dimensions pour moi. Ça a une dimension légale, c'est le débat en ce moment en France. Ça a une dimension philosophique. Et moi, je l'imagine juste sur une dimension humaine. S'il m'arrivait à moi une maladie ou une dégénérescence ou des souffrances insupportables, j'aimerais qu'on m'offre la possibilité de mourir comme je le veux. Euthanasie active, euthanasie passive, suicide assisté. Pour moi, tout ça, c'est du choix à mourir.
Le quoi ? Suicide assisté. C'est pas à l'hôpital ? Le suicide assisté. Parce qu'il y a la mort assistée à l'hôpital, mais il y a aussi le... Je sais pas ce que c'est.
Bah... Enfin, je suis pas au courant du coup de ce que c'est, mais pour moi, c'est... On aiderait quelqu'un à se suicider ?
Bah, c'est bizarre de savoir quand tu vas mourir, quand même.
Enfin... En vrai, d'un côté, là, je suis en train de réfléchir. Si les personnes sont vraiment mal et que c'est leur besoin de quitter ce monde... En vrai, c'est triste, mais peut-être que c'est la solution pour des problèmes. Il faut que ce soit vraiment discuté avec la personne.
Admettons, tu es croyant. Dieu t'a donné la vie, donc ne pas rester... Du coup, tu respectes pas ton Dieu en t'enlevant la vie, quoi. Ce serait un non-respect envers... la personne en qui tu crois. Ouais. Il est super particulier, votre sujet.
Peut-être, alors je suis pas sûre, mais peut-être euthanasie active, c'est le fait qu'on soit pleinement conscient du choix qu'on fait au moment où on le fait. Et l'euthanasie passive, c'est peut-être les cas où la personne est plus en compétence quoi, de choisir pour elle-même à cause de maladies peut-être mentales ou d'incapacité. Et que donc on choisit en quelque sorte pour elle. voilà, de passer à l'acte, quoi. Mais je suis pas sûre.
Dans l'idée de bien mourir, c'est de mourir sans souffrance. Parce qu'en fait, si on questionne les gens, je trouve que vous l'avez bien vu dans le film que vous aviez pu faire aussi sur un peu la vieillesse. C'est pas tant de vieillir et de mourir qui fait peur aux gens, c'est de souffrir. Et c'est là aussi les curseurs. La personne souffre pas, elle souffre moyen, non, mais on va offrir telle ou telle solution selon son degré de souffrance aussi. Mais souffrir, c'est pas que physique, en fait. C'est aussi une souffrance psychologique qu'on a des fois du mal à évaluer, qui des fois n'est pas du tout évaluée. On est tous différents, donc forcément la souffrance psychologique, elle est différente selon les personnes.
La définition du choix de mourir. L'idée, c'est de pouvoir mourir en toute lucidité et en pleine conscience. Alors, je n'ignore pas que c'est complexe. Le choix de mourir, c'est le choix du moment. C'est le choix où on va considérer, où je vais considérer, qu'au-delà de ça, ça n'est plus digne. C'est évidemment ma conception de la dignité. En fait, cette question de la dignité, elle est au fondement. Elle est au fondement parce que soit on considère que l'individu est ontologiquement, fondamentalement digne et que rien ne peut entamer sa dignité, donc le point de vue, on va dire, de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des dispositifs qui permettent l'euthanasie, soit on considère que la dignité est quelque chose qui est propre à chaque individu et que donc il a le droit de décider de mettre fin à sa vie à partir du moment où les choses sont indignes de son point de vue. De son point de vue et du point de vue aussi de son entourage.
La première loi concernant les soins palliatifs, c'est 1999, 9 juin 1999. Dans cette loi, il est notifié que tout citoyen doit avoir accès à des soins palliatifs. Regardez aujourd'hui où on en est. On a 22 départements qui ne bénéficient pas d'une unité de soins palliatifs. Si on reste dans notre région, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un département qui a fermé son unité de soins palliatifs en 2024. Permettons déjà un accompagnement de tous. En France, 360 000 citoyens ont besoin de soins palliatifs par jour et il n'y en a que 180 000 qui ont accès à une équipe de soins palliatifs. Voilà. Appliquons déjà des lois qui ont été mises en place il y a 26 ans. Les études montrent que 9 demandes d'euthanasie sur 10 disparaissent si ces patients rencontrent une équipe de soins palliatifs et sont pris en charge par des soins palliatifs. La demande d'euthanasie, souvent, c'est parce qu'on a mal. Voilà, ça peut être un mal psychique, un mal physique ou autre, un mal spirituel. C'est une douleur spirituelle. Donc, si on arrive à trouver une solution pour diminuer cette douleur, 9 fois sur 10, cette demande, elle disparaît. Pour celles qui persistent, on a la dernière loi qui concerne les soins palliatifs, qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti, qui est de février 2016, et qui permet d'accéder à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.
La loi Leonetti qui a fait avancer un peu les choses, au sens où elle a permis l'aide passive à mourir. Mais je dirais que cette possibilité-là, cette loi-là, cette législation-là n'autorise pas en fait ce que je prônerais ou ce à quoi je suis attaché, c'est voilà, de décider, même si on n'est pas dans une situation de mort imminente ou de maladie incurable avec on va dire une échéance rapprochée, la possibilité de dire que là on veut s'arrêter. Hein? Donc ça et que on a droit à l'aide active à mourir.
Bah là, j'avoue que comme j'étais pas au courant, ça me choque un peu parce que quand on voit ça, tout de suite on pense à la mort, et moi, comme je suis pas du tout dans ce cas-là, ça me paraît affreux.
On ne la vit plus, la mort. Ça se passe à l'hôpital. 75% des gens meurent à l'hôpital. Parce que la mort, c'est quelque chose dont on ne veut plus.
Il faudrait que j'en apprenne plus, que je voie les débats et tout. Voilà.
Pour l'instant, en France, la loi Claeys-Leonetti permet aux patients, s'ils le demandent, avec avis médical, d'avoir une sédation profonde jusqu'à la mort. C'est un sédatif qui est injecté et qui peut être combiné à l'arrêt des traitements artificiels, alimentation, hydratation et respiratoire. Donc, au bout de quelques temps, qu'on ne peut pas savoir à l'avance, la personne décède. C'est ce qu'on peut appeler de l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est permettre à des malades, des mourants, d'avoir accès à une injection létale qui peuvent se faire eux-mêmes ou par un professionnel médical ou par une tierce personne. Et la nouvelle loi qui est en proposition serait celle-ci. Rendre possible une injection létale aux malades qui sont en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable. Le suicide assisté, lui, comme on peut le voir en Suisse, c'est des associations qui peuvent permettre au malade de boire lui-même cette substance létale, alors que dans l'euthanasie active, c'est une injection qui peut être faite par un tiers. En Suisse, il faut être en capacité de pouvoir boire le produit qu'on nous donne. Donc on est en suicide. Assister.
La Suisse est différent parce qu'en Suisse, en fait, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, c'est sorti du champ médical. C'est-à-dire que ce sont des associations dans lesquelles il y a des médecins, de grandes associations, mais donc on est moins dans la dimension de prise en charge hospitalière ou par le système de soins traditionnel.
Je crois que le coût d'un suicide assisté en Suisse est aux alentours de 8000 euros.
C'est vraiment, ce sont des mauvais termes, je trouve. Je trouve que suicide, ouais, je sais pas trop. Un suicide assisté. Jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'était tout le contraire auprès de mes amis. Donc, ça me paraît étrange, ce mot. Dire un suicide, ça veut dire qu'on accuse déjà, on culpabilise quelque chose déjà de la personne qui veut cette fin de vie.
Il y a deux écoles. Il y a l'école, même pour le mot de deuil, il ne faut pas parler de la mort, il faut dire que la personne est partie, que la personne n'est plus là, l'assistance fin de vie. Et puis à l'autre école où il faut appeler un chat un chat, la personne elle est morte. Qu'on dise qu'elle est partie ou qu'elle est morte, le résultat est le même. Mais je peux comprendre qu'on puisse vouloir adoucir certaines choses en donnant des mots plus doux pour une chose qui est difficile à vivre.
J'ajouterais une chose que je n'ai pas encore dite, mais en fait, cette loi, elle est très inégalitaire aussi, la loi Leonetti. Parce qu'en fait, comme pour d'autres situations sociales, les gens qui veulent mourir, ils vont en Belgique, ils vont en Suisse, les gens qui ont de l'argent, je veux dire, qui ont les moyens, ils peuvent tout à fait, eux, bénéficier de services dont on ne peut pas disposer actuellement en France.
Mais, en fait, c'est très délicat d'avoir un avis tranché, parce que déjà, c'est faire passer une loi, c'est décider finalement pour d'autres personnes. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un « tu as le droit à mettre fin à tes jours et à ne plus souffrir » ou « non, tu n'as pas le droit et tu vas devoir tenir jusqu'au bout ». C'est très délicat. Il y a toujours deux faces à une pièce. Et je pense que ça peut aider énormément de gens si la loi est favorable, mais qu'il peut aussi y avoir des abus. C'est ni bon ni mauvais. Je serais une mauvaise politicienne parce que je ne pourrais pas prendre de décision pour d'autres. Je ne peux pas dire que je suis pour et je ne peux pas dire que je suis contre. Je peux préciser que je viens de Belgique. Et chez nous, c'est autorisé depuis 2002.
Les Français qui font les démarches pour aller en Belgique font les démarches, mais il y a un faible pourcentage qui va jusqu'au bout de la démarche. Ce qui est la même chose en Oregon, aux États-Unis, où les gens font la démarche, vont acheter les comprimés et finalement ne les utilisent pas. Je pense que c'est aussi un moyen de se rassurer que je vais pouvoir maîtriser jusqu'au bout. Mais c'est le besoin du citoyen de maîtriser les choses et d'être rassurée parce que je vais mourir comme je le souhaite, comme je choisis de comment je vais mourir, comment je finirai ma vie.
Qui arrive en fin de vie, c'est vraiment complexe. Est-ce qu'on fait le choix de rentrer à l'hôpital ou pas, ou en EHPAD, quelle sera la fin selon où on se trouve. On n'a pas accès aux mêmes choses non plus. J'ai du mal à voir les dérives, en fait. J'ai du mal à voir le risque et j'ai du mal à voir ce qui bloque les gens, en fait.
On est dans une démocratie, dans une société qui est en évolution. Donc faisons, oui, pourquoi pas, faisons évoluer les lois. Mais attention, restons bien vigilants. Quel garde-fou, voilà, si on ouvre, on ouvre, on ouvre. Est-ce qu'on peut être garant que ce choix sera volontaire? Voilà, et pas forcément.
J'ai l'impression que dans les faits, certaines personnes ont accès à des moyens de mettre fin à leur jour parce qu'ils connaissent les bonnes personnes, parce qu'ils ont un proche dans le milieu médical. Tous les autres lambda qui n'ont pas ces relations, n'ont pas ce choix-là. En fait, il y a des choix qui existent selon où on est placé, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir tous le même choix. Enfin, en tout cas, je pense que c'est quand même connu que si on a un médecin dans sa famille ou même une infirmière, on peut avoir un accès plus facile à une fin de vie, plus douce, que si on est bloqué chez soi ou à l'hôpital. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais...
De manière clandestine, je le suppose, je peux pas. Ouais, vous avez vu les médias, voilà, on en parle, certains professionnels l'avouent, on a eu des procès, voilà. Donc oui, ça existe, de manière non légale.
La loi Leonetti est très hypocrite, en fait, parce que on estime, je l'ai lu, donc je n'ai pas le moyen de le vérifier, à 2000 le nombre d'euthanasies effectives faites par an par des médecins. Voilà. Donc les médecins qui sont confrontés à des situations extrêmes, des situations de grande souffrance, pour lesquelles l'idée d'aller à l'hôpital pour des soins palliatifs, etc., n'est peut-être pas la plus pertinente, font les gestes qui leur sont demandés par les personnes. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand il y a des directives anticipées, c'est beaucoup plus facile quand il y a une personne de confiance qui a été désignée, font les gestes qui permettent... Là, on est vraiment qui permettent en fait de libérer les gens, de les soulager. C'est le dernier acte de soin, mais c'est fondamentalement un acte de soin, même si c'est donner la mort. Je sais que le serment d'Hippocrate implique, et dans le serment d'Hippocrate, c'est écrit « ne pas tuer ». Le serment d'Hippocrate, comme dans toute activité humaine, comme dans toute activité importante, il est forcément avec des paradoxes, des contradictions et des tensions. Certaines personnes choisissent de le respecter à la lettre. D'autres choisissent de le respecter plus dans l'esprit en disant « ma mission, c'est de soulager la douleur et de soigner ». L'acte de tuer quelqu'un qui est en grande souffrance, qui est dépendant, qui le souhaite, c'est un acte de soin, fondamentalement. Donc c'est ces médecins qui agissent comme ça, ils peuvent être attaqués ou poursuivis pour homicide. Ça, c'est hors, de mon point de vue, ils ont un acte de soin qui est d'un grand courage et d'une grande générosité.
Vous allez entendre que la sédation est pour certains hypocrite, mais l'intentionnalité n'est pas la même. quand vous mettez en place une sédation, l'objectif est de soulager le patient. On sait bien qu'au bout, il y aura un décès, mais l'intentionnalité de l'acte, c'est de le soulager pour qu'il puisse partir de manière apaisée. L'euthanasie, vous faites un acte volontaire de donner la mort. Vous savez qu'au bout de votre seringue, quand vous avez fini, la personne va décéder dans les minutes qui vont suivre. Et ça, c'est important pour le soignant qui va réaliser l'acte. Son intention n'est pas la même. Voilà. Donc c'est... Dans cette loi, vous avez la clause de conscience. Donc vous pouvez refuser de faire l'acte, mais il vous faut trouver un collègue qui va le faire à votre place. Cette loi, elle parle aussi de la formation. Il faut que tous les professionnels de santé soient formés. Aujourd'hui, tous les professionnels de santé ne sont pas formés aux soins palliatifs. Ceux qui ont le plus d'heures d'enseignement, c'est les infirmières, avec 45 heures sur leurs 3 ans d'études. Les aides-soignantes, elles ont 7 heures. Les médecins, ils ont 15 heures sur leur cursus.
Je discutais avec des amis médecins, mais eux, ils étaient plutôt contre cette loi, en se disant que aujourd'hui, une équipe médicale qui accompagne des gens dans une extrême souffrance, qui sont, enfin voilà, tout est fait pour que alléger cette souffrance, et que finalement aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont déjà faites, et que c'était encore de pousser encore plus loin.
Quand il y a une fin de vie et que la mort, normalement, la fin de vie est pour bientôt, oui, la sédation profonde, c'est tout à fait légal.
Quelqu'un peut être dans le coma ou en tout cas sédaté pendant longtemps, mais c'est pas ça qui va faire qu'il meurt. C'est un arrêt cardiaque qui fait que la personne meurt.
Et là, on a quand même une batterie de médicaments pour les aider à partir dans la sérénité.
Moi personnellement, enfin voilà, on commence à parler du sujet et tout de suite on dit personnellement. Et donc on va forcément l'avoir avec le prisme de sa propre vie, de son propre vécu, de ce qu'ont vécu ses parents et autres. Tu veux savoir un peu, moi ce que je pense par rapport à ça?
Je sais que j'ai un avis très assez poussé par rapport à ça. Ma position en règle générale sur le suicide est assez particulière au sens où je pars du principe que si c'est vraiment un choix de la personne, eh ben, il faut le respecter. Bien sûr, il y a des personnes qu'on peut considérer qui n'avaient peut-être pas toute leur tête, ou on n'avait peut-être pas toutes les réponses, on n'avait pas apporté le soutien nécessaire pour que ça aille mieux, mais malgré tout, quand on en arrive à ce niveau-là, à cet acte-là, c'est que voilà, la personne a fait ce choix quelque part. Selon moi, hein, selon mon point de vue, hein, encore une fois, je pense que c'est encore assez particulier.
Alors, il y a une chose que j'ai envie de dire, mais qui n'est pas forcément une anecdote précise. Quelque chose que je vais dire et que j'ai l'impression que les gens ne savent pas, c'est qu'on va tous mourir. Et je vais donner un exemple. Quand je rentre dans les soins palliatifs, à chaque fois, je prends un moment avant de passer la porte parce qu'il y a la Caroline humaine, la fille de tous les jours qui n'est pas thérapeute, se dit « tu vas rentrer là-dedans et c'est quand même tous des gens en fin de vie, tu vas pousser la porte, c'est lourd ». Et puis je me raisonne et je vois deux ambulanciers sortir de l'ascenseur et je me dis « mais eux aussi, ils vont mourir, on va tous mourir, ni plus ni moins que les personnes qui sont aux soins palliatifs ». Et si j'ai un conseil à donner aux gens, vivez.
Ça se passe en Belgique, c'est l'histoire de mon amie Micheline. Et Micheline, elle a 80 ans il y a 2 ans. 80 ans, on lui a diagnostiqué déjà il y a quelques années un cancer qui est maintenant métastasé. Elle est consciente, elle vit, elle ne souhaite pas bénéficier des traitements. Elle ne veut absolument pas que la tumeur au cerveau l'atteigne dans sa possibilité de parler, d'être en communication avec les gens et d'être autonome. Et donc elle décide de mourir. Voilà. Elle s'adresse donc un service hospitalier, un service médical dont c'est la vocation. Et elle arrive là et elle dit « je veux mourir tout de suite ». Et là, les professionnels disent « non, ça, non. On va attendre quelques jours, on va vous aider un peu à aller mieux ». Et ça lui permet en fait ces 2-3 jours de répit ou 4-5 jours de répit. de prendre le temps de recevoir et d'accueillir et de dire au revoir à tous ses amis.
Le bon moment de mourir. Je pense qu'il n'y en a jamais. Ou tout le temps. Je sais pas.
Le meilleur moment pour mourir. C'est une très bonne question. Le meilleur moment pour mourir, j'ai envie de répondre spontanément le plus tard possible.
Évidemment, ce sont des situations, c'est un peu idéal, on va dire, cette description, parce que toutes sortes de situations peuvent évidemment se présenter. Mais je mettrai ça en opposition avec l'obligation presque devant laquelle on se trouve, de se trouver dans des soins palliatifs, avec des sondes qui nous nourrissent et qui nous hydratent, avec de la morphine, en attendant une agonie plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse. Je sais bien que les services de soins palliatifs et la plupart des médecins font en sorte que la souffrance soit la plus réduite possible, mais ça n'empêche que on voit bien qu'il y a deux modèles un peu qui s'opposent là, je le répète, l'aide active à mourir et l'aide passive à mourir.
Je pense que le débat, il est là, en fait, sur qui peut choisir de donner la mort.
Pour moi, il devrait avoir des moyens où tu peux t'arrêter de vivre. Enfin, pas du coup le suicide, mais plutôt des cachets ou des piqûres ou des soins médicaux qui font que tu meurs et te font arrêter ton cœur, quoi.
Je pense qu'on peut pas savoir avant d'être proche de la mort.
Tu ne mettras pas ça dans le film, mais on a une patiente là, comme ça. Et c'est exactement ça. 97 ans, tu sens que le corps, le corps petit à petit, voilà. Mais elle est encore là et pourtant, et tous les jours, et puis ça fait des années, ça fait des années que tous les jours, elle nous dit que... Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est encore là? Alors que... Il y a plein de fois, elle aurait pu y passer. Et je suis persuadée qu'en fait, il doit encore se passer un truc. Il y a un truc qui n'a pas été dit, il y a un truc, une conversation qui n'a pas eu lieu, il y a quelqu'un qui la retient, ou il y a... Ça, j'en suis persuadée. Pour moi, il y a des... Il doit encore se passer un truc. Et je pense qu'à 97 ans, si mon corps me dit... Si je suis encore là, que j'en peux plus, mais si je suis encore là, c'est qu'il doit encore se passer un truc.
Alors j'ai suivi, je sais qu'il y en a qui voudraient que ce soit un dossier complet et d'autres qui voudraient que ce soit séparé. Pourquoi ? Honnêtement, j'ai pas tout regardé, mais je sais qu'il y a ça actuellement qui est débattu. Je ne suis pas allée plus loin, c'est un sujet qui est tellement fort, qui est tellement que quand on y est confronté, on... Je suis désolée.
En janvier 2025, on a reculé par rapport à la loi qui devait être votée en 2024. Là, le Premier ministre François Bayrou a parlé de scinder un texte commun en deux parties. Il y a un risque en scindant ces lois en deux parties qu'il n'y ait qu'une partie qui soit votée. On connaît ses positions très claires sur le projet de fin de vie depuis 2022. Il s'oppose clairement à une aide à mourir. Alors que ce texte est le fruit d'une procédure de concertation citoyenne.
Si on ne peut pas être maître de sa mort, on ne peut pas être maître de sa vie. C'est-à-dire, si on n'a pas la possibilité d'être maître de sa mort, il me semble que ça obère, ça limite le fait d'être maître du chemin de vie qui mène à la mort. Je pense que philosophiquement, dans la conception d'une certaine forme de vie, et en fait, là, c'est peut-être un peu polémique, mais ceux qui s'opposent à cela, et notre cher Premier ministre, qui est un catholique pratiquant, je respecte évidemment ces conceptions-là. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a de bonnes conceptions et de mauvaises conceptions. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas de raison que les conceptions, on va dire, portées par l'Église catholique s'imposent à tout le monde. Et qu'en fait, on soit obligé de se soumettre à la position, on va dire, de l'Église catholique et de la plupart des grandes religions, donc, qui ont évidemment toutes leurs valeurs, qui sont structurantes aussi du champ social. Bon, ils nous ont dit la même chose si on faisait l'euthanasie, si on autorisait l'euthanasie, que ça allait rompre le contrat social, parce qu'on allait une exception d'euthanasie, on allait autoriser une forme d'assassinat ou de tuer des gens. On a entendu ces discours-là même pour l'accès à la contraception. On a entendu ces discours-là pour l'avortement. On a entendu ces discours-là pour le mariage pour tous. Enfin, à chaque fois qu'il y a la possibilité d'une maîtrise des humains sur leur propre destinée. On entend ces discours qui viennent indiquer que ceux qui veulent maîtriser nos vies veulent aussi maîtriser notre mort.
Lorsque l'on regarde les pays qui ont déjà pris des décisions législatives par rapport à cette aide médicale à mourir, les pays les plus ouverts sont des pays dont la relation État et religion est la plus éloignée, ou des pays dont la religion est plus le protestantisme que le catholicisme.
On a chacun nos croyances. Pour moi, la religion, en tout cas, pour la personne qui va mourir, peu importe ce qu'on croit et en quel Dieu on croit, pour moi, elle a toujours aidé. Dans ce que j'ai pu voir... Finalement, ça a toujours été, peu importe le Dieu, ça a toujours été finalement un truc à se dire, on n'est pas tout seul, et puis en fait, il va se passer quelque chose, quoi, on ne sait pas, personne ne pourra raconter, mais il va se passer un truc, et finalement, ça, pour ceux qui avaient cette religion, cette croyance, moi j'ai trouvé que ça... Finalement, ça a toujours... Après, peut-être que je dis ça parce que je suis croyante, mais en tout cas, j'ai... Parfois, ça, ouais, j'ai trouvé que ça apaisait beaucoup de situations.
Les religions n'ont pas le même avis sur la fin de vie, n'ont même pas les mêmes avis sur ce que devient le corps ou ce qu'il faut faire du corps quand la personne décède, quels soins on y apporte, quelles funérailles, comment se déroule le deuil. Toutes les religions sont très différentes.
On a beau dire « je ne vais plus, je ne suis pas pratiquant, je n'ai pas de religion », il y a quand même les siècles de religion derrière qui font qu'au fond de la personne, il y a toujours un petit truc, pouf, une bulle qui remonte, justement la culpabilité, ce choix qu'on n'a pas le droit de faire, parce que voilà. Même des gens que je connais qui ne sont pas du tout, effectivement, ni pratiquants, ni affinés à quelque religion que ce soit, mais qui ont toujours des doutes ou des réticences. Je crois que ça va être long à effacer ça. Sauf si, effectivement, l'autorisation vient de l'État et que ça va devenir quelque chose de plus banalisé. Alors, banalisé, attention, c'est un terme qui veut dire qu'on aura le droit. C'est ça, surtout. Parce que c'est pas quelque chose de banal.
Dans la religion catholique, on n'a pas le droit au suicide, ni à l'aide au suicide.
Par rapport au fait de demander la mort, alors qu'effectivement, dans les religions, c'est pas tolérable.
Ce serait mieux si, une fois qu'on dit au ciel, voilà, il est temps que je rentre à la maison, ce serait mieux si le ciel écoutait votre demande. C'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Non, je pense que le débat religieux doit évoluer, clairement.
Le rêve des gens, enfin dans l'idéal, les gens disent « je suis dans mon lit, j'ai parlé à tout le monde, je pars, j'ai réglé mes problèmes, tout ». En fait, ça se passe, je pense, très rarement comme ça, je pense. Parce que les décès que j'ai eus autour de moi, ça a toujours été douloureux physiquement pour les personnes, malgré toutes les aides qu'on pouvait leur apporter. C'est violent. C'est très violent.
Sur les quelques fins de vie que j'ai pu accompagner et d'avoir été là jusqu'au dernier souffle, c'est waouh. C'est très prenant.
Je dirais pas qu'il y avait de l'acharnement, mais on avait des personnes qui étaient maintenues en vie, des fois dans des états de douleur incroyables, parce que c'est un sujet qui était tabou. Moi, je vois personnellement, je pense que mes grands-parents ont vécu leurs dernières années en maison de retraite dans un état délabrement physique et intellectuel total. Donc d'un côté, ce qui était rassurant, c'est qu'ils avaient peut-être sans doute plus conscience de leur propre état, de leur propre... Mais après, il y avait tout ce qui était sujet de douleur et autres. Et puis, on sait que dans les EHPAD, parfois, c'est quand même pas la joie non plus. Je me dis jamais, moi, je n'accepterai de finir dans un état comme ça. Il faudra qu'à un moment donné, j'en parle peut-être à mes enfants. Alors, on a le temps. Mais de voir un peu avec eux que je sois apte de mes choix, en fait.
Le libre arbitre, c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de nos choix, véritablement ? La liberté, le libre arbitre, c'est relatif, toujours. Toujours. Donc, ce n'est pas plus délicat dans les situations de fin de vie que dans les situations de la vie courante où on décide de se marier, on décide de travailler, on décide de faire ceci, cela. Donc, le libre arbitre, c'est une vraie question. Donc, a priori donc, on va considérer, je ne vois pas bien comment on peut faire autrement, que eh bien, la personne qu'on a en face de nous, elle est libre. Voilà. À partir du moment où elle est là, elle est libre. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas vrai fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, si, c'est vrai fondamentalement, mais il y a des choses qui empêchent cette liberté. On va, par exemple, tenir compte de son entourage. En prenant en compte son entourage, on perd un peu de sa liberté, d'une certaine façon. Mais bon, le libre arbitre, c'est quelque chose de toujours, toujours relatif. Et donc, si on n'est pas dans cette sorte d'a priori que la personne qui est en face de nous, je me répète, mais est libre, et que ce qu'elle nous dit est ce qu'elle pense, eh bien, on ne peut pas s'en sortir, en fait. Si on commence à prendre en compte tel ou tel aspect qui viendrait limiter, réduire le libre arbitre de la personne, de fait, on ne la considère plus comme libre.
C'est une question délicate à laquelle j'ai déjà réfléchi et à laquelle il m'est quasi impossible de répondre parce que pour moi, il y a trop de facteurs extérieurs qui peuvent modifier ma réponse et le libre arbitre d'une personne.
À l'heure actuelle, en 2024-2025, 80% des demandes de soins palliatifs, de lits palliatifs pour les malades, n'ont pu être mis en place faute de moyens ou de places. Je sais aussi que plus de 90% de la population française, selon les sondages IFOP, sont favorables à une loi qui aide à mourir.
Ça fait peur parce qu'il y aura le départ. Et je me dis, si on n'est plus capable de dire qu'on veut partir, alors qu'on souffre quelque chose d'abominable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision, enfin qui ait l'autorisation. Et d'un autre côté, c'est tellement tabou. C'est tabou.
Parler de ce qu'on veut pour notre fin, ça ne fait pas venir la mort, mais par contre, ça peut solutionner plein de situations. On parle beaucoup des directives anticipées. C'est super si vous arrivez à les écrire, mais si surtout vous arrivez à en parler, c'est primordial. Dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Voilà. En sachant que vous pourrez changer d'avis à tout moment. Faites-vous des cafés mortels. Invitez votre famille, vos frères, vos sœurs et parlez de ce que vous voulez pour votre fin de vie. Souvent les gens ont peur, mais après ils apprécient. Et au moins on sait, voilà. Plus c'est préparé, plus les deuils après se règlent, se passent le mieux possible.
J'ai fait des démarches, moi, en ce sens, j'ai rempli un papier, je ne sais même plus ce que c'est.
Moi, j'avais accompagné une personne à l'hôpital, et à un moment, on m'a fait voir un papier en me demandant si ce papier était toujours valable, c'est-à-dire je ne poursuis pas les soins en cas de, etc. Et la seule chose que j'ai pu répondre à la personne, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, j'ai dit oui, parce que là, on y est.
Il y a plusieurs moyens légaux pour l'instant pour donner son choix quant à la fin de sa vie. Il y a les directives anticipées, qu'on peut rédiger ou dicter, qui sont toujours modifiables, mais qui sont ad vitam aeternam, et qui sont contraignantes pour le médecin. Pour l'instant, comme il n'y a pas de loi, on ne peut pas dire qu'on souhaite mourir. L'équipe médicale peut aussi s'appuyer sur les témoignages du patient, qui peuvent être récurrents, ou des demandes qui peuvent être présentes depuis longtemps. Et il y a aussi le recours à la personne de confiance. S'il n'y a pas de directive anticipée, s'il n'y a pas de document administratif, c'est elle qui prendra les décisions pour le malade. Mais dans la loi, dans le projet de loi actuel, il faut que ce soit le patient lui-même qui fasse cette demande.
Il faut un sacré une sacrée réflexion pour dire bon, bah, maintenant je veux y aller, maintenant c'est. Enfin, je sais pas, hein, c'est. C'est douloureux, c'est difficile. Hein.
Bon, déjà, pour arriver là, c'est une réflexion de toute une vie. Hein? Voilà.
Il y a plein de tabous, il y a plein de. Puis c'est fini, hein. Après, il n'y a plus rien, quoi. Autour de moi, j'ai eu des gens qui étaient très, très malades, dont la fin était irrémédiable dans des conditions impossibles. Et à un moment, on dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je. Et puis après, l'instant d'après, on dit, mais je peux rien faire. Puis je ne veux pas faire. Enfin, je voudrais, mais je ne voudrais pas.
Je me sens impuissante parce que. Ouais, je me sens impuissante. Enfin, on essaye hein, de redonner un petit coup de bonheur, un petit coup de. Mais c'est. Voilà, ça nous dépasse. Clairement, ça nous dépasse. Mais je pense que même si c'est des gens qui nous le disent et qui nous le disent tous les jours, j'en ai marre, je veux en finir, etc., finalement. Il y en a plusieurs hein, qui me disent si je savais que j'étais sûre de mourir, je le ferais. Il y a la peur de se rater. Mais on est là, on discute, et puis ben, les journées passent.
Je sais que si on lui propose quelque chose pour mettre fin à ses jours de manière paisible, et ben, elle aimerait bien, mais il n'y a rien qui existe, et elle n'est pas dans les bons critères. Donc sa seule solution, c'est d'attendre ou d'arriver avec des méthodes qui ne lui conviennent pas, quoi.
C'est des gens qui sont âgés, qui sont plus aussi en forme qu'avant et qui aimeraient mourir tant que ça va encore pas trop mal et avant de souffrir vraiment. Et eux, on a rien.
Moi, je me verrais pas clairement donner la mort à quelqu'un, quoi. Moi, dans le cadre de mon métier, en tout cas, c'est. Je le conçois pas. Je suis infirmière.
En expérience personnelle, il y a déjà la réflexion et les inquiétudes que j'ai par rapport à ma situation familiale. J'ai une maman qui a un début d'Alzheimer et j'ai un papa qui a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. Dans mes visites en EHPAD ou en soins palliatifs, j'ai eu des témoignages de personnes qui voulaient mourir, qui demandaient à l'équipe médicale de l'aide ou à nous, bénévoles, d'intervenir. Et j'ai pu aussi voir la souffrance de personnes qui n'ont pas de maladie incurable, qui ne savent pas quand elles vont mourir, mais qui sont juste en solitude ou en tristesse, en EHPAD, sans famille, sans visite, et qui en ont marre et qui attendent de mourir. Elles ne rentrent pas dans le cadre de la loi, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent.
C'est quand même terrible que des gens qui savent que c'est irrémédiable, qui veulent mourir avant de trop souffrir, qui veulent qu'on leur donne la permission de partir. C'est quand même dommage qu'on le fasse pas, quoi.
Je n'ai jamais eu peur de la mort depuis toute petite. J'en ai connu. Il faut respecter la demande de chacun. Chacun a un parcours que je ne connais pas. Donc je n'ai pas à juger, je n'ai pas fait son chemin à sa place. Non. On n'a pas à juger, on n'est pas à la place des gens.
Pour l'instant, la future loi prévoit 5 conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir. Il n'y a pas de notion de suicide assisté ou d'euthanasie active dans le projet, juste aide à mourir. Il faut être majeur. Il faut être de nationalité française ou résider en France. Il faut être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic à court terme. Il faut être réfractaire au traitement, être dans des douleurs psychiques et psychologiques. Et il faut être apte à demander cette aide à mourir. Et pour l'instant, la loi ne prévoit pas de donner cette possibilité-là aux malades qui ne sont pas en phase terminale ou des malades psychologiques. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont ouvert, au bout de quelques années, l'aide à mourir pour des maladies qui sont des maladies psychiatriques. Mais pour l'instant, en France, ça ne fait pas partie du projet de loi initial.
On va dire que d'un côté, on n'a pas le choix de naître, en fait. Donc, on arrive, mais qu'on soit dans la possibilité de choisir aussi comment on part.
En fait, on choisit déjà pas de naître. Et je me dis que la plus grande liberté qu'on pourrait avoir, c'est de notre capacité à pouvoir choisir de mourir quand on veut et de la manière que l'on aimerait le mieux. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait décider de notre vie, en fait ?
Pour citer un président français qui a vu naître la loi sur l'IVG, peu importe ce que je pense, moi personnellement, ce qui est important, c'est ce que pense le peuple français. Et le peuple français, à 90%, est prêt à voir la loi sur la fin de vie évoluer.